Dans nos vies chrétiennes, on est appelé à témoigner, d'une part par obéissance à Jésus-Christ, pour que ces personnes à qui nous témoignons puissent connaître la vérité. Et à témoigner, non pas d'une religion, mais d'une relation avec Dieu, avec un Dieu qui pour les autres est encore inconnu. Et un Dieu qui, pour ces gens-là, est un Dieu parmi d'autres dieux. Parce que dans le monde, on rencontre des tonnes de religions, beaucoup de religions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est intéressant de savoir pourquoi sommes-nous chrétiens, pourquoi aimons-nous Jésus-Christ, pourquoi aimons-nous Dieu, ce Dieu-là, manifesté par Jésus-Christ, et pourquoi pas un autre Dieu. Alors d'abord, il faudrait faire un état des lieux. Dans le monde, qu'est-ce qui existe comme religion et comme supposé Dieu? Alors je vais être très synthétique, mais ça permet de poser en préambule les bases de ce qui vient ensuite va être présenté. Alors il existe de nombreuses religions. Les principales en termes d'adhérents, de croyants, sont de l'ordre de 5. Vous avez l'hindouisme, vous avez le bouddhisme, vous avez l'islam, vous avez le judaïsme, vous avez le christianisme. Il y en a d'autres encore, bien sûr, qu'on va qualifier de plus petits en nombre. Il serait intéressant de savoir ce que proposent ces religions pour l'être humain. Sachant que tout être humain a en lui, on va dire, deux ou trois questions fondamentales. Pourquoi il existe ? Est-ce qu'il existe un être supérieur dans cet univers? Qu'est-ce qui adviendra de moi après la mort? Qu'est-ce que ces religions proposent en termes de réponses concrètes pour l'espèce humaine? Alors si on prend l'hindouisme, c'est une religion qui est née principalement en Inde et qui donc accourt en Inde et au Népal. Il y a un seul dieu, le Brahma. Bien que à côté du Brahma, il y a également de multiples dieux. C'est un dieu qui est impersonnel et inconnaissable. Pourquoi ? Parce que on considère qu'il est dans toute chose, dans une chaise, dans une pierre, dans un arbre, et aussi dans les êtres humains. Donc, pour les gens qui sont adeptes de cette religion, de cette religion-là, tout est sacré, aussi bien des pierres que de l'eau, que un insecte, etc. Donc il faut respecter tout ça. Cette religion s'appuie sur des textes également, qu'on appelle des Védas. Ce sont des livres théologiques et qui ont une contenance théo-mythologique. Théo, c'est-à-dire qui parle de Dieu, mais avec une mythologie. Donc ça veut dire quelque chose qui est plutôt attrait à des légendes, donc à des choses qu'on ne peut pas vérifier. Pour rappel, dans la Bible, et notamment dans ce qui est dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, peu à peu, avec le temps, on retrouve des preuves archéologiques de ce qui s'est passé dans le passé. L'hindouisme, non, c'est basé sur des fables qui font partie de la culture. Donc c'est une mythologie religieuse avec des mythes et des histoires. Donc quel est l'objectif de l'hindouisme? Qu'est-ce qu'il propose aux individus? Donc l'hindouisme considère que l'humanité est divine, est de nature divine. Brahma est dans tout. Nous sommes tous divins. Et il est illusoire de vouloir mener une vie individuelle. On doit, on va dire, s'harmoniser, se mélanger avec tout ce qui nous entoure. Faire un seul avec une pierre, avec l'univers, avec l'eau, avec tous les éléments qui composent ce monde. Et pour cela, il faut plusieurs vies, parce que la personne doit apprendre par elle-même, doit cheminer pour arriver à cette capacité de pouvoir se fondre dans l'univers. Et donc, il y a la réincarnation. Donc la personne va mourir, va se réincarner entre choses, ça peut être un insecte, une vache, un animal, une fleur, enfin bref. Et au travers de cette vie, elle pourra encore continuer à apprendre pour justement, à la fin, il faut l'espérer, mais on ne sait pas combien de temps après, pouvoir faire partie de l'univers et vivre en harmonie. Donc, finalement, on ne sait pas à la fin ce qui va devenir de nous, si on va réussir, si on va, qu'est-ce qu'on va vivre finalement. Voilà. Le bouddhisme. Alors, il a été fondé par, sur les enseignements, la base des enseignements d'un homme qui s'appelait Bouddha. Bouddha, c'était un homme qui était issu d'une famille très riche, qui n'avait aucun souci, et qui, un jour, en regardant par-dessus le mur qui entourait donc la propriété de ses parents, s'est rendu compte qu'il existait des tas de choses, notamment de la pauvreté, des gens qui étaient dans la nécessité, dans la maladie, dans la faim. Et donc, il a commencé à vouloir mener une vie contemplative, c'est-à-dire une vie de méditation. Donc il a découvert que justement la méditation lui permettrait de se couper de toute préoccupation. Il a découvert également que le désir était une source de problème et que donc il fallait éviter d'avoir du désir. Et globalement, c'est mener une vie contemplative sur la recherche, là encore, de l'harmonie. Donc c'est plutôt, on va dire, une philosophie. Et donc, de vouloir toujours chercher à avoir des paroles justes, des actes justes, qui n'offensent personne, qui, encore une fois, s'harmonisent avec la vie, qui ne vont pas à choquer, à buter avec d'autres personnes. Donc là encore, les enseignements du Bouddha ont été recueillis dans un document qui s'appelle le Tripitaka, ou Trois Corbeilles. Donc pour les bouddhistes, le but ultime de la vie, c'est de parvenir à l'illumination, c'est-à-dire le nirvana. Celui-ci est l'état suprême de l'être, un état d'existence pur, atteint par des moyens inhérents à l'individu. Donc là encore, ça repose sur les capacités de la personne à pouvoir, plus ou moins rapidement, ou peut-être même jamais, à atteindre cet état-là. C'est basé sur ses propres forces. Le nirvana défie toute explication rationnelle ou tout ordre logique. On ne peut par conséquent pas être enseigné. Le nirvana donc ne peut pas être enseigné, il peut être seulement atteint. Comment ? Débrouillez-vous. En gros, c'est ça. Et donc, le nirvana réside dans le fait de mener une vie morale tout en faisant appel à des êtres supérieurs pour et par la méditation. Donc, pour les bouddhistes authentiques, la religion est une philosophie morale et éthique qui se résume à une vie de renonciation à soi. Donc, la pauvreté, et puis se fondre dans le décor. L'islam. Alors, l'islam signifie littéralement soumission. Donc, un musulman est soumis à Dieu, en l'occurrence, Allah. Et donc, l'islam est fondé d'abord sur les prophéties de Mahomet, qui sont conservées dans un ouvrage qui s'appelle le Coran. Donc au départ, au 7e siècle, cet homme qui s'appelait initialement Mahomet et qu'on appelle maintenant Mahomet, affirme avoir été visité par l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel, nous le connaissons, c'est lui qui vient voir Marie pour lui annoncer qu'elle va être enceinte du Saint-Esprit. Donc déjà, il y a une contradiction. Pourquoi l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle va enfanter le Fils de Dieu ? Et pourquoi il irait voir Mahomet pour lui donner les bases d'une nouvelle religion, ou d'une nouvelle philosophie, ou d'une nouvelle chose. Et donc cet ange va lui apparaître pendant 23 ans. Donc, sur quoi se base l'islam ? Donc, sur une confession de foi, il n'existe qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet qui est son prophète. Quand une personne confesse ces deux aspects-là, il peut être musulman. Il peut rallier donc la foi islamique. Donc, ça s'appuie également sur la prière, avec cinq prières quotidiennes obligatoires. Donc là, il n'y a pas à discuter. C'est 5 prières par jour minimum. S'il veut en faire plus, il peut, mais c'est 5 prières minimum. Donc, s'il n'a pas envie, ou s'il n'a pas le temps, ou s'il est en train de travailler, il arrête tout et la prière au moment de l'appel de la prière. L'aumône, donc donner à ceux qui ont besoin, puisque tout vient d'Allah, donc il faut aussi distribuer ses richesses. C'est ce que notre Seigneur nous invite à faire, à être aidant avec ceux qui sont dans la nécessité. Le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Donc il y a des jeûnes occasionnels, notamment le plus connu c'est le ramadan. Et le cinquième pilier, c'est donc l'el-hadaj, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc tout musulman doit avoir au moins avoir fait une fois dans sa vie. Donc, si le musulman obéit à tous ces préceptes-là, il peut accéder au paradis. Je dis il peut parce qu'il y a quand même un bémol, c'est qu'à la fin, c'est quand même Allah qui va décider. Donc on voit que, en partie, c'est basé sur les mérites personnels, la capacité à pouvoir faire ces œuvres-là, mais même si on est excellent, zélé, et qu'on réussit à avoir une vie parfaite selon le Coran, à la fin, c'est Allah qui peut éventuellement dire « Non, toi, tu ne peux pas aller au paradis. » Donc, il y a encore une incertitude. Alors ensuite, la quatrième religion, c'est le judaïsme. Alors le judaïsme, ça vient de la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël. Donc le dictionnaire définit un juif comme un membre de la tribu de Juda. Un israélite est un membre d'une nation, donc ayant existé en Palestine au 6e siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc le juif s'attache à la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, et pour lui il n'y a que ça. Tout ce qui vient après, ça ne l'intéresse pas. Pour eux, Jésus-Christ, si, quand ils le reconnaissent, parce que ce n'est pas souvent le cas, c'est éventuellement un prophète. Mais ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le Fils de Dieu. Pour eux, le Messie est encore à venir. Et dans la Torah, on le voit à travers des commandements qui sont donnés. Donc pour plaire à Dieu et pour se gagner le ciel, il faut absolument obéir à tous ses préceptes. Il y en a plus de 600. Et dans les Épîtres, Paul nous dit bien que tous ces commandements n'ont en fait été donnés que pour montrer que le péché existait et que l'homme, ça lui était impossible de répondre à tous ces commandements-là. Et qu'il avait besoin de l'aide supérieure, à savoir de Dieu, pour pouvoir vivre à la manière que Dieu souhaite que nous vivions. Mais eux, ils en sont restés au fait que non, c'est en faisant ça qu'on va se gagner le ciel. Alors, après ce préambule, qu'est-ce que propose le christianisme? Et donc j'ai intitulé cet exposé « Le christianisme est-il une religion ou bien une relation personnelle avec Dieu manifestée par et en Jésus-Christ ?» Je pose la question. C'est vous qui répondrez. Et le premier point de cet exposé, ça se trouve dans Genèse, que j'intitulerai « Une histoire d'une relation rompue ». Dans le premier chapitre, nous voyons un Dieu. Alors j'ai dit un Dieu volontairement parce que quelqu'un qui n'est pas encore croyant et qui prendrait la Bible, qui commence à la lire depuis le début à la fin, il prend connaissance d'un Dieu. On ne sait pas qui c'est. Un Dieu dont l'esprit se meut sur les eaux. Et qui par la parole, sa parole, décide de construire, de créer l'univers. Avec son système solaire, ses étoiles et une planète, la Terre, et qui organise également les éléments physiques de cette planète. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, à la fin, il regarde ce qu'il a fait et il dit « Oui, c'est bien. » Donc c'est quelqu'un qui déjà a un grand pouvoir et qui a, on va dire, une capacité de jugement pour établir si ce qu'il a fait est bien. Et durant cette construction, à la fin, il crée le règne animal. Et je dirais, cerise sur le gâteau, il crée un être supérieur, que nous appelons l'être humain. Et on pourrait se dire, pourquoi crée-t-il l'humain? Il est Dieu, il est tout-puissant, il peut se suffire à lui-même. Pourquoi a-t-il besoin? Pourquoi souhaite-t-il créer un univers, des planètes, une faune, des animaux et un être humain? Et peu à peu, le pourquoi va se dessiner dans les chapitres suivants, mais également tout au long de ce livre. Et bien sûr, les chapitres dans la Bible, quels qu'ils soient, on en trouve l'explication dans ces chapitres propres, mais d'autres éléments de la Bible nous éclairent sur d'autres chapitres de la Bible. Et par exemple, Genèse peut être éclairée par toute l'histoire de la Bible pour comprendre quel est le but de Dieu en créant l'univers, en créant l'être humain. Alors, au cours de la lecture de la Bible, on se rend compte qu'on a affaire à un Dieu qui a de l'amour, qui est saint, qui est juste. Alors, pour le premier point qui est l'amour, nous avons Éphésiens 2, chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. » Romains, alors ça ne peut pas laisser ça de chercher, hein. Romains, chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu met en évidence son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » 2 Corinthiens 13, 11, « Du reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, soyez encouragés, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Donc on voit que l'amour est un trait de caractère de Dieu. Quel est l'autre endroit, comment dirais-je, non, c'est pas l'endroit, c'est quelles sont les autres circonstances où on voit parmi nous s'exercer l'amour?
Quand on se marie.
Très bien, absolument. Un homme et une femme se rencontrent pour des raisons d'affinité et pour des raisons qui parfois peuvent nous échapper. On était pris d'une femme, la femme était prise de l'homme. Ces sentiments sont si importants qu'ils en deviennent exclusifs. C'est-à-dire que ces deux êtres décident d'avoir une relation privilégiée et unique entre eux. Ce qui les conduit à se marier. Et en général, ceci les amène à concevoir un enfant. Pas seulement pour se reproduire, mais parce que généralement, l'enfant est le fruit de cet amour. On voit que l'amour préside à cet événement. Eh bien, si ce que nous vivons sont les ombres des choses spirituelles, quand le soleil donne sur vous, vous avez votre ombre par terre. L'ombre, ce n'est pas vous, mais c'est une image de vous. Donc, ce que nous faisons, nous, d'un point de vue terrestre, est l'ombre d'une chose spirituelle, qui est l'amour de Dieu. Et donc, Dieu a fait également la même chose. En lui, il y a tellement d'amour, de bonté, qu'il ne souhaitait pas rester tout seul. Il souhaitait créer un être avec qui il allait avoir une relation. De la même manière que nous avons une relation avec notre épouse ou notre épouse avec son époux, ou après avec nos enfants, puisque la constitution d'un foyer, c'est pour avoir une famille, donc des enfants, donc avoir une relation, vivre ensemble. Et si ça, c'est une ombre des choses spirituelles, ça veut dire qu'en amont, c'était la même chose pour Dieu. Dieu souhaitait créer des êtres, qui plus est, à son image et sa ressemblance. Nous ne sommes pas nés avec une queue de lézard, avec des ailes de chauve-souris, non. Nous sommes nés à l'image et ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il nous apprend dans chapitre 1. Chapitre 1, verset 27. « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Donc on voit que ce qui préside à l'action de Dieu, c'est l'amour. Et si vous lisez la Bible dans son ensemble, vous verrez que c'est une constante. La preuve en est, c'est que après la chute, il nous est dit « Mais Dieu a mis en évidence son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc si il a de l'amour pour nous sauver par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, ça montre bien que antérieurement, avant la chute, il y avait aussi de l'amour pour nous créer et donc pour créer la race humaine. Et donc cet amour se manifeste comment? Là encore, dans Genèse, ça nous est montré. Premièrement, une fois qu'il les a créés, il leur dit, il les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit que l'être humain a une place très spéciale dans la création. Il est le lien entre Dieu qui est au ciel et toute la création terrestre. Il est l'intermédiaire. Et Dieu lui donne un rôle essentiel. Il lui dit assujettissez, c'est-à-dire dominer. Mais pas dominer dans le sens d'un dictateur qui va faire le mal, non. Dominer dans le sens de gérer, contrôler. La responsabilité de prendre soin de l'endroit où Dieu a passé l'être humain. Et c'est cette vertu qu'aujourd'hui l'être humain devrait avoir sur la planète pour justement ne pas contaminer, ne pas faire de destruction telle qu'on le voit aujourd'hui. Donc là encore, c'est une conséquence du péché. Alors, quand Dieu crée Adam, il le place dans le jardin d'Éden, un jardin dans lequel il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, puisque l'un des commandements de Dieu, quant à la nourriture, on le trouve dans le chapitre 1, verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui en soi a du fruit d'arbre pour semence. Ce sera votre nourriture. » Donc, Dieu n'a pas créé l'homme, il l'a pas mis sur la terre, et puis il dit maintenant, débrouille-toi pour te nourrir. Tout lui est donné. Il est dans un contexte, on va dire, privilégié. Et de même, Dieu dit, et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tous ceux qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc ça veut dire que dans cette première partie, et avant le déluge, aussi bien les animaux que les êtres humains, avant la chute, en tout cas, ne mangeait pas de viande. Donc, il n'y avait pas de tuerie. Donc, Dieu passe Adam dans le jardin d'Éden et lui dit que qu'il doit le cultiver. Dans le chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. » Dans le jardin d'Éden, il y avait plein d'arbres fruitiers. Et il y avait également deux arbres bien spécifiques. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit donc à ses propos cet arbre, « Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Et Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Donc là, on voit bien le rôle de gestionnaire qui est donné à Adam. Dieu crée le règne animal. Et il fait venir les animaux devant Adam pour que celui-ci leur trouve un nom. Un nom qui correspond à chaque race d'animaux. Donc on voit bien la responsabilité que lui confie Dieu et la confiance qui lui témoigne. Parce que Dieu, dans sa grandeur, aurait pu très bien dire, bon ben voilà, tel animal c'est tel nom, et c'est là, voilà. Non, il lui fait participer à son œuvre. Il l'intègre. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, « Celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. » En hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu ish. Donc voilà, Dieu a créé l'homme, il le place dans un jardin magnifique, avec tout ce qu'il faut pour vivre correctement, il lui offre des responsabilités, sa confiance, mais malgré tout, il se rend compte qu'à l'homme, il lui manque une compagnie. Avant même que l'homme ait pu dire, vous savez, tu sais Dieu, bon ben, je suis bien avec toi, mais je me sens un peu seul, parce que je règne sur des animaux, sur une faune, une flore, mais je suis tout seul. Avant même qu'il ait pu prendre conscience de sa solitude, Dieu a compris et a su qu'il avait besoin d'une compagnie. Et il lui a donné. Donc là encore, on voit cet amour que manifeste Dieu à son égard. Et enfin, verset 24, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc, voilà. Le cadre est défini. On voit que Dieu, par amour, crée deux êtres humains avec lesquels il veut établir une relation. Et tous deux vivent nus. Ça ne leur pose pas de problème. Ils n'ont pas de problème de conscience. Il n'y a pas de définition de bien et de mal. Dieu a prévenu Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres de jardin, sauf d'un, car s'il en mangeait, il pourrait mourir. Un arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit encore là, et ce sera la fin de cette première présentation, parce que c'est très long et il y a encore beaucoup de choses à faire, à voir ensemble. On voit que Dieu n'agit pas avec l'être humain comme si l'être humain était un objet à lui ou une marionnette ou un petit personnage qui va le distraire. On a vu les responsabilités qu'il lui donnait, on a vu la confiance que Dieu lui faisait, et également il le met devant, on va dire, un danger potentiel en le prévenant, comme le feraient des parents qui préviennent leur enfant que s'il met la main sur la vitre du four, il risque de se brûler, et très violemment. Donc là, il y a deux possibilités. Ou l'enfant écoute et fait confiance à ses parents, et croit en ses parents. Il dit, bon, ma papa et ma maman m'ont prévenu, chaud, je ne sais pas ce que c'est, bon, j'ai conscience de ce qui est chaud ou froid, mais chaud de façon intense, je ne sais pas. Donc soit il écoute, ou soit il veut expérimenter par lui-même. Et dans ce cas-là, il prend le risque de se brûler. Et bien là, c'est un peu la même chose. Dieu met l'homme face à une situation où il doit choisir soit donner toute sa confiance ou continuer à faire confiance à Dieu et dire ok, cet arbre-là c'est un danger, j'y touche pas, ou bien de tenter de par lui-même de découvrir de quoi il s'agit, de quel danger, quel est le danger auquel il est confronté. Et donc ce danger, on le verra une prochaine fois, Dieu voulant. Merci pour votre écoute.